Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h04 et avec des petits problèmes techniques, on commence quand même le journal radiophonique amplifié numéro 56 de ce jeudi 21 novembre 2019. Aujourd'hui, on va parler actualité, bien sûr, avec toute l'équipe qui sera de nouveau réunie. Il y aura une revue de presse, un billet politique, un billet économique qui fait son grand retour sur les ondes. Il y aura de la culture et de la musique comme d'habitude et même un édito scientifique. On commence tout de suite sans plus tarder avec l'actu mix et égalisé monté et bien sûr amplifié. Et tout de suite, on commence le journal avec au programme du National et notamment une réforme sur les hôpitaux.
Oui Mathilde, en effet, la réforme Édouard Philippe a présenté hier un plan d'urgence pour l'hôpital public suite à plusieurs semaines de mobilisation. Parmi les annonces, une rallonge budgétaire de 1,5 milliard prévue pour les trois prochaines années, la reprise d'un tiers de la dette des hôpitaux publics, soit 10 milliards d'euros, pour contrecarrer la baisse de 50% des dépenses de l'investissement hospitalier en 10 ans liées à cette hausse de la dette, mais également la mise en place de nouvelles primes pour renforcer l'attractivité de certains métiers, comme une prime annuelle de 800 euros pour les infirmiers et aides-soignants de la région parisienne qui ont du mal à se loger avec moins de 1 900 euros par mois, mais également une prime pour les aides-soignants qui exercent auprès de personnes âgées et une autre pour récompenser l'engagement et l'investissement des personnels médicaux. A aussi été annoncée une réforme du statut des médecins travaillant à l'hôpital. Les mesures visent à un réel assouplissement, avec l'ouverture de la possibilité pour ces médecins de devenir chefs d'établissement, une reconnaissance renforcée des activités non cliniques, comme la recherche ou l'enseignement, mais également la possibilité d'une rémunération variable. Des mesures qui n'ont pas convaincu les soignants en colère, qui dénoncent des actions très loin de répondre à leurs attentes et qui appellent à une nouvelle manifestation le 30 novembre.
Et du côté de Airbnb et des hôtels, ça gronde.
C'est clair, on a l'impression que les problèmes s'amoncellent autour de l'organisation des JO 2024 qui, rappelons-le, prendront place à Paris. C'est cette fois une histoire d'hôtellerie qui met en cause les organisateurs des JO, et en particulier le Comité International Olympique. L'UMIH, Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie, s'est réunie mercredi dernier à Biarritz. Et pour eux, c'est un contrat à 500 millions d'euros avec la plateforme Airbnb qui ne passe pas. Où est la moralité ? S'est interrogé Roland Egui, son président, jugeant, je cite, « outrageux » de faire de cette entreprise, qui joue de la déréglementation dans tous les pays du monde, un partenaire mondial du CIO, en ajoutant que l'offre hôtelière et francilienne était en plus un atout dans le dossier de candidature de la ville de Paris. Airbnb, de son côté, défend cet accord, je cite, « historique », accord qui viserait à permettre aux villes hôtes d'accueillir les Jeux de manière plus locale, authentique et durable. Pas vraiment une défense efficace, plutôt une juxtaposition de termes clés pour une entreprise poursuite en justice par la mairie de Paris, qui, elle, ne se mouille mais pas trop dans cette polémique en promettant aux hôteliers une réponse politique mais sans pour autant proposer de solutions claires. Affaire à suivre.
Et on va parler des maires aussi avec toi Nicolas.
Et c'est le retour d'Emmanuel Macron au Congrès des maires. Une édition qui s'est déroulée entre le 19 et le 21 novembre sous le signe du suspense. Des sifflets, pas de sifflets, ou même peut-être un président accueilli sous des hurrahs municipaux, on sait jamais, faut tout prévoir. Et ben cette fois, c'est un silence total, entrecoupé de quelques toussotements de maires indifférents au sucre des mots présidentiels, formulation empruntée au vice-président de l'Association des maires de France, André Laginel. Les maires s'échappent par petits groupes pendant que Macron implore au micro « J'ai besoin de vous !» Jean-Marie Truchot, maire de Cramence dans le Jura, et un des fugitifs du fameux discours, fait une confidence au journal Le Parisien. Cela tombe un peu creux, même s'il y a beaucoup d'effets de manche. Mes voisins se sont endormis, et moi, je n'en étais pas loin. En somme, une ambiance habituelle de congrès, pour Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales et figure de proue du gouvernement.
Et Marie, tu vas nous parler d'un Grenelle plus que d'actualité.
Et oui, puisque les 11 groupes de travail du Grenelle contre les violences conjugales présentaient hier leurs 60 propositions. Parmi les mesures suggérées, formation, brevet contre la violence conjugale à l'école, autorisation pour un médecin d'informer les autorités de violence même sans accord de la victime, inscription du suicide comme circonstance aggravante et j'en passe. A aussi été vivement débattue la question de l'autorité parentale, confiée pour l'instant au juge des affaires familiales. En septembre avait été adoptée la proposition de loi contre les violences faites aux femmes, portée par le député LR Aurélien Pradier, et qui prévoyait notamment un bracelet anti-approchement pour les conjoints violents, ainsi qu'une réduction des délais d'attribution des ordonnances de protection pour les juges aux affaires familiales. La prochaine étape, des réunions interministérielles pour faire des arbitrages, ainsi que la présentation de mesures par le gouvernement lors de la journée d'élimination de la violence faite aux femmes. Des mesures qui, sur le papier, sont essentielles, mais encore incomplètes. On regrette surtout l'absence de mesures pour la prise en charge des hommes violents, une problématique qui n'apparaît bizarrement dans aucune des thématiques. En bref, les choses avancent, mais il reste encore beaucoup de travail à accomplir.
Et on passe maintenant à l'international. Avec l'Iran.
Et oui, puisque l'Iran est secoué depuis samedi par de violentes manifestations provoquées par l'annonce d'une hausse des prix du pétrole, une augmentation de 50% pour les 60 premiers litres achetés chaque mois et de 300% pour les litres suivants. 40 personnes ont été arrêtées samedi, l'accès à Internet coupé dans la majorité du pays, les écoles fermées et on déplore des bâtiments et voitures incendiées, des routes bloquées et des tirs à balles réelles meurtriers. Plusieurs personnes auraient perdu la vie dans des affrontements extrêmement violents entre policiers et manifestants. Dans un pays en difficulté économique suite aux sanctions américaines, en proie à un taux d'inflation de 40% et à la chute de sa monnaie, le rial, l'essence est forcément subventionnée et la consommation de carburant très élevée. L'État, lui, annonce qu'il ne tolérera pas l'insécurité et vante les conséquences positives de cette hausse des prix du pétrole, une réforme dont les bénéfices seront distribués aux ménages dits « sous pression économique », soit près de 75% de la population. Il avance aussi le fait que la faiblesse des prix entraîne une contrebande estimée à 20 millions de litres par jour. Les manifestants, eux, n'ont que faire de ces discours. Ils dénoncent une mesure prise par les chefs des trois pouvoirs à quelques mois des législatives de février et remettent également en cause tout le système économique et politique de leur pays. Une manifestation supplémentaire d'une ampleur inédite dans un monde qui s'embrase toujours davantage.
Et on fait le point sur la situation à Hong Kong maintenant, puisque cela fait 5 jours que l'université polytechnique est occupée par des manifestants pro-démocratie, malgré une confrontation avec la police. C'est le plus long affrontement entre manifestants et forces de l'ordre depuis le début de la mobilisation en juin. Depuis le début de l'occupation de l'université, déjà 700 personnes ont été arrêtées en lien avec cette occupation et plus de 200 personnes ont été blessées. Cette action fait réagir à l'international puisqu'hier, le Congrès américain a approuvé une résolution pour soutenir les manifestants, ce qui a engendré une vive réaction de Pékin qui perçoit cela comme une grave provocation. En attendant, les étudiants qui demeurent dans l'université risquent 10 ans de prison et lundi dernier, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté pour alléger la pression sur Polytechnique en attirant la police anti-émeute. Celle-ci, d'ailleurs, s'est dite prête à utiliser des balles réelles contre les manifestants. Nous suivrons donc bien sûr l'évolution des événements de très près. Et Marie, tu nous emmènes au Sri Lanka pour des nouvelles.
Et oui, puisque dimanche dernier, les Sri Lankais ont élu leur président et le résultat du scrutin est extrêmement contesté. C'est en effet Gotabaya Rajapaksa, le frère de l'ex-président, qui a été élu avec 52% des voix. Une victoire nette qui marque le retour au pouvoir du clan Rajapaksa. Un clan adulé par la majorité singhalaise, mais haï et craint par les Tamouls, minorité ethnique que le frère du président élu a violemment réprimée durant la guerre civile sri-lankaise. Les frères Rajapaksa sont été accusés de crimes de guerre. Même si on a signalé des barrages dressés illégalement par l'armée pour empêcher les électeurs tamouls d'aller voter et des tirs menés par des hommes armés sur un convoi de bus transportant des électeurs musulmans, l'élection reste la plus pacifique de l'histoire du pays. Proche de la Chine, le clan Rajapaksa inquiète aussi l'Inde et les Occidentaux et au Sri Lanka, Gotabaya est une figure qui fait polémique. Surnommé « Terminator », cet homme fort a promis de lutter contre la corruption et l'extrémisme islamiste, mais a été rattrapé par son passé politique. Il est accusé d'avoir commandé des escadrons de la mort, ces convois qui ont enlevé et parfois tué des dizaines de Tamouls, journalistes et opposants politiques dans les années 2015. Une élection qui est donc riche en enjeux et risque fort d'attiser les tensions dans un pays au rôle clé sur la scène géopolitique asiatique, divisé entre Singhalais et Tamouls et qui a déjà connu une guerre civile meurtrière et une crise politique majeure il y a moins d'un an.
Et aussi, samedi dernier, le New York Times a publié des documents du régime chinois qui rendent indéniable l'organisation de la persécution des ethnies musulmanes par Pékin. Communiqué par un lanceur d'alerte chinois, ces documents mettent en lumière une véritable campagne de harcèlement et d'internement des Ouïghours. des discours inédits du président Xi Jinping, des discours des cadres du parti, des directives et rapports de surveillance des citoyens, aux enquêtes internes, toutes ces preuves démontrent l'existence d'interrogatoires musclés, de séparation de familles, d'endoctrinement des enfants et d'une politique d'hypersurveillance au moyen de drones et de reconnaissance faciale. Et surtout, les documents attestent de l'existence de camps d'internement avec travail forcé et lavage de cerveau pratiqués, camps que Pékin qualifie de centres de formation professionnelle. Ces camps ont concentré entre 1 à 3 millions de personnes ouïghours ces dernières années, et alors que le président Xi Jinping a affirmé que ces documents avaient été utilisés hors de leur contexte, il ne reste plus qu'à espérer une réaction un peu plus vive de la communauté internationale.